Et sans tarder, nous allons passer à la deuxième phase de notre conférence de presse, à savoir la séance des questions et réponses. Vous connaissez la règle, éteignez vos téléphones ou mettez-le sous mode silencieux. On commence par Goma. Goma, vous avez deux questions.
Oui, une question qui est prête avant de prendre. Merci beaucoup, Germain Chukuru, pour le compte de la radio Télévision Emmanuel. J'ai une question, je m'adresse particulièrement au colonel Prosper Fetzpas, qui est le porte-parole civil de la MONUSCO. La semaine écoulée, la MONUSCO et le gouvernement congolais ont signé un protocole d'accord pour la réintégration des nouveaux et l'Air Force dans l'opération de traque des rebelles Hutus rwandais. L'année passée, Martin Kobler avait déclaré l'échec de la mission onusienne de l'opération de traque des rebelles ADF en territoire de Béni. Même chose, après avoir continué avec ces opérations, Abdallah Wafi a plus déclaré...
Posez votre question, s'il vous plaît.
Oui, maintenant, je voudrais savoir, par rapport à ces protocoles d'accord que la MONUSCO a signé, qu'est-ce que la MONUSCO a promis au gouvernement congolais au-delà de l'intervention logistique et tactique?
Merci pour votre question. C'est une préoccupation légitime, surtout par les temps qui courent. D'abord, vous me permettrez, avant de répondre à votre interrogation, de corriger une chose. Monsieur Martin Kobler n'a jamais déclaré l'échec de la MONUSCO concernant la traque des ADF. Je tiens juste à vous rappeler qu'au fil de nos conférences de presse hebdomadaires ici, le porte-parole militaire nous a gratifié d'informations de manière récurrente sur les opérations qui sont menées contre les ADF dans la région de Béni, et ce, en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises, notamment les FRDC, compris la PNC. Maintenant, pour ce qui est de votre question, qu'est-ce que la MONUSCO aurait promis au gouvernement congolais pour que cette reprise de coopération reprenne? Je pense que, d'abord, permettez-moi de vous le dire, que la question est mal posée, parce que ce n'est pas un marchandage, ce n'est rien d'autre que... des parties responsables se sont assises et compte tenu de la suspension des opérations que nous avons observées depuis le début de l'année 2015, on a échangé, on a discuté, on a aplani nos divergences et nous avons tous reconnu la nécessité d'accroître nos moyens mais aussi d'accroître nos actions pour mieux protéger les populations civiles, particulièrement de la région de Béni, où, comme vous le savez, des massacres innommables, indiscriminés, ont été menés par les rebelles de l'ADF dans cette région-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons rien promis. Nous avons tout simplement discuté. Nous nous sommes entendus sur des points de divergence. Ces divergences ont été aplanies. Et il faut féliciter la sagesse et la volonté des autorités gouvernementales, parce que, n'oubliez pas, au fil des conférences de presse, mais en dehors même de ce cadre formel où nous nous rencontrons tous les mercredis, nous n'avons pas cessé de faire le plaidoyer pour la reprise effective de ces opérations, car vous savez, il y a eu autant de morts du côté des populations civiles surtout, mais aussi du côté des vaillants soldats congolais et des casques bleus aussi de la MONUSCO. Donc, nous nous félicitons de cette signature de cet accord, et nous pensons qu'en mettant ensemble nos moyens, en mutualisant nos moyens, en fédérant nos efforts et nos intelligences, nous parviendrons à réduire la menace que constituent les groupes armés, y compris les FDLR. Merci. Donc, nous restons à Goma pour une deuxième question.
Alors, une autre question. Merci, c'est Norbert Moudou pour le compte du journal Émergence. Ma question s'adresse, je pense que c'est le colonel qui va devoir me donner la réponse. Quels sont le défi majeur que la force de la MONUSCO compte relever à court terme par le truchement de son nouveau force commandant?
Oui, mon colonel, vous pouvez prendre la question et je compléterai.
Comme l'avait dit tout à l'heure, monsieur Félix, si je dois le répéter, le nouveau post-commandant se propose de poursuivre l'œuvre gigantesque amorcée par son prédécesseur, c'est-à-dire le général Alberto Ruiz Santos, et le soutien de toute la force. Et monsieur Félix l'a dit tout à l'heure, il pourra que suivre l'œuvre de son prédécesseur. Merci.
Ah oui, juste peut-être pour compléter et dire que les objectifs n'ont pas varié. Ils sont clairement identifiés et dans la dynamique qui a déjà été inscrite par le général de corps d'armée Carlos Alberto dos Santos Cruz, le nouveau commandant de la force, bien sûr, aura peut-être son style et sa touche personnelle dans l'exercice du commandement qui lui a été confié par M. Ban Ki-moon, mais toujours est-il qu'il s'inscrira dans la même logique, dans la même dynamique qui concerne premièrement la protection des populations civiles, qui est le socle de notre mandat, mais aussi la neutralisation des groupes armés et l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs efforts de stabilisation du pays, aussi bien à l'Est que partout ailleurs. Donc nous revenons tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions, une sur la droite, une sur la gauche. Nous commençons par Benoît Kambéré, à tout seigneur, tout honneur. C'est le président adjoint de l'UNPC.
C'est seulement le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Je suis ici modestement en qualité de journaliste.
Très bien.
Monsieur le porte-parole, je m'en voudrais. Je pensais que je n'allais rien dire sur l'accord, mais vous m'obligez à y revenir. L'accord à peine signé, qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur le porte-parole, si ce n'est pas un secret militaire, quels sont les points de divergence que vous aviez, que la MONUSCO avait avec les FARDC? Une deuxième, c'est une sous-question. Qu'est-ce qui a changé depuis la signature déjà, il n'y a pas longtemps? J'ai dit.
Oui, donc je pense que il est inutile de revenir sur les conditions de divergence qui nous avaient opposées avec les autorités congolaises. Je l'ai dit tantôt, j'ai toujours dit que j'aimais beaucoup la dynamique dans laquelle nous nous étions inscrits, parce que j'ai toujours aussi rappelé que dans toute forme de relation, qu'elle soit conjugale, amicale, familiale ou fraternelle, qu'il y avait des hauts et des bas, et nous avons connu cette période de hauts et de bas qui est dépassée, dans la mesure où, comme je l'ai dit, nous avons pris conscience de l'apport de tout un chacun, parce que c'est dans un cadre d'échanges fructueux que la force de la MONUSCO et les FARDC travaillent depuis très longtemps, en parfaite synergie et dans un esprit de camaraderie, de fraternité d'armes, qu'on ne peut pas nier. Alors, donc, je pense que la question qui avait été agitée à l'époque, il y a un an, vous conviendrez avec moi que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et que cette suspension de la coopération a permis aussi aux groupes armés d'étendre leur influence dans leurs zones, dans les zones où ils opéraient, et qu'aujourd'hui, avec la reprise de la coopération militaire qui a été matérialisée par la signature d'un accord, je pense très sincèrement qu'un pas significatif a été franchi, et que, avec le concours des populations civiles que nous sommes censés protéger, parce qu'elles sont aussi, elles jouent un rôle de premier rang, je pense qu'ensemble, et comme je l'ai dit, l'union faisant la force, et en mettant nos moyens et nos intelligences ensemble, je pense que nous apporterons un peu plus de réconfort aux populations congolaises. Une deuxième question ici à Kinshasa, nous le prenons à gauche. Donnez le micro à Steve Wemby.
Merci, c'est Steve Wemby pour l'agence Chine Nouvelle. Je ne vais pas faire un pléonasme vicieux, mais j'aborde dans le même sens avec le CG. Vous, la MONUSCO, vous avez d'abord refusé, vous avez conditionné votre participation dans la traque contre les FDLR dans l'Est, en accusant certains commandants de FARDC d'avoir commis des graves violations des droits de l'homme. Le gouvernement était disposé pour recevoir de preuves. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été déposée, donc n'a été prouvée par la MONUSCO, selon le gouvernement congolais. Et ma question est celle-ci, qu'est-ce qui bloque donc la publication, bien, qu'est-ce qui vous bloque, vous, la MONUSCO, d'aller apporter ce preuve au gouvernement pour que ces commandants ne puissent pas participer dans la traque? Apparemment, selon votre dernier communiqué que vous avez publié ce matin, aujourd'hui, vous avez dit que vous allez apporter votre soutien logistique aux commandants qui sont accusé par vous-même d'être des violeurs de... Voilà, merci.
Oui, merci pour votre question. D'abord, je relève au passage qu'il y a une forte propension à opposer la MONUSCO et les FRDC sur des sujets qui réellement ne sont plus d'actualité. Alors, maintenant que vous reveniez sur cette question passée, je viens de le dire à M. Cambéré, je viens de lui dire que nous avons dépassé cette étape. Alors, je voudrais bien savoir quel est l'intérêt de remuer le couteau dans la plaie dans la mesure où nous sommes à une autre étape. Cette étape a duré une année et on est passé à une phase supérieure qui est la reprise de la coopération militaire, je dis, voulue et fortement voulue par la MONUSCO parce qu'il faut le reconnaître, nous ne pouvions pas non plus, les deux parties ne pouvaient pas s'asseoir et observer toutes les misères que vivent les populations de Béni. Vous êtes bien à l'aise ici à Kinshasa, mais je vous demanderai de faire un tour dans ces localités-là pour mieux comprendre pourquoi est-ce que notre plaidoyer était fait de manière régulière, réaffirmé à chaque conférence de presse et même réaffirmé par nos autorités auprès des autorités congolaises. J'ai dit aussi que je saluais cette ouverture d'esprit, je saluais cette acceptation des autorités congolaises de la reprise d'une coopération parce que, comme je l'ai dit, c'est bénéfique pour toutes les parties. Mais d'abord, bénéfique pour les populations civiles qui ont besoin de nous, FRDC et MONUSCO ensemble. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Revenir, remuer le couteau dans la plaie, je pense que nous sommes à une autre époque. Et je vais vous dire une chose. S'il était nécessaire pour la MONUSCO de mendier une reprise de coopération, elle se justifierait. Qu'est-ce qui est plus important que la vie humaine? Qu'est-ce qui est plus important que la vie des populations qui sont dans des parties isolées de la RDC et qui subissent la loi de ces groupes armés? Oui, nous avons voulu cette coopération. Oui, nous sommes prêts à nous engager avec les autorités congolaises. Et oui, le succès est au bout de l'effort que nous allons y mettre tous les deux. Donc oui, nous repartons donc à Goma où nous prendrons deux autres questions. Nous avons encore le temps. Goma, vous avez le micro.
Oui, c'est Patrick Félix Abeli pour Horizon et le journal Les Grands Cris. Nous allons tourner autour de la même question. La coopération a été reprise. Cependant, le ministre Mende a déclaré qu'au cours de sa mise au point que la coopération est reprise sur base de l'insistance de la MONUSCO et que vous aviez accusé injustement les deux généraux lors de vos rapports que vous procédez à la mise à la disposition du public. Maintenant, je me pose la question, est-ce que vous saurez travailler dans l'étroite collaboration, d'autant plus que vous aviez dénoncé que certaines des violations sont commises par les généraux des militaires et que vous voulez encore travailler avec eux?
Oui, merci. C'est quand même, je suis au regret de voir que nous tournons autour de la question. Vous l'avez vous-même indiqué tout à l'heure dans votre présentation. Mais ce que je peux vous dire, oui, je réaffirme que, oui, avec insistance, la MONUSCO a demandé la reprise de la coopération militaire et j'ai évoqué les raisons pour lesquelles nous le faisions et j'ai même été plus loin. Maintenant, concernant le problème que vous avez touché tantôt, sachez que nous ne nous sommes jamais départis des principes fondateurs qui nous permettent de respecter et de faire respecter les droits de l'homme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ces principes qui doivent être respectés tiennent compte aussi de la souveraineté de l'État congolais. Et à ce propos, des mécanismes internes ont été mis en place pour permettre une meilleure coopération et prendre en compte les risques et éventuellement les possibilités et les mesures à prendre en cas de constatation de certains dérapages. Donc c'est de manière intelligente que les deux parties se sont assises pour trouver des formules qui leur permettent de travailler de manière respectueuse, de manière fructueuse pour le bien des populations civiles. Donc nous prenons une deuxième question à Goma. Goma, très rapidement, une deuxième question.
Merci. C'est Emile Massita de la RDMC. Ma question s'adresse au colonel Basse Félix, le porte-parole civil de la MONUSCO. Vous venez de diminuer vos éléments en or cuivre et puis vous avez diminué aussi le salaire de vos staff en disant que le nord cuivre n'est plus la zone rouge. Au moment où il y a toujours les enlèvements, il y a des groupes armés à l'intérieur de la province. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour tant que le partenaire de la République démocratique du Congo?
Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez repréciser votre pensée? Parce que vous me baladez entre les salaires qu'on baisse, etc. Donc, vous pouvez préciser votre question?
Oui. Oui, vous avez, d'abord parce que vous avez diminué vos éléments en or cuivre en disant qu'il y a la paix. Ce mois ici, vous avez diminué aussi le salaire de vos staffs, tant nationaux qu'internationaux, en disant que le nord cuivre n'est plus la zone rouge. Vous, en tant que le partenaire de la République démocratique du Congo, il y a toujours les enlèvements en nord cuivre, il y a des groupes armés encore à l'intérieur de la province. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, merci beaucoup. Madame, je prends en compte vos préoccupations. Je peux d'abord tout simplement vous dire que la réduction des effectifs de la MONUSCO n'a pas concerné que le Nord Kivu, et cette réduction n'a pas été justifiée par le fait qu'il y avait la paix. Il faut que je corrige d'abord cette première déclaration que vous avez faite. La réduction des effectifs de la MONUSCO, de la force de la MONUSCO, s'inscrit dans un premier temps dans le cadre de notre stratégie de retrait futur de la République démocratique du Congo. Le deuxième élément qui justifie ou qui fonde cette réduction des troupes, ça a été fait sur la demande des autorités congolaises qui ont même demandé que nous réduisions un peu plus. Et donc le Conseil de sécurité nous avait donné mandat de réduire environ 2000 hommes sur l'ensemble de l'effectif que constitue la force. Aujourd'hui, une autre requête, une autre proposition a été soumise sur la table du Conseil de sécurité par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour une réduction effective d'environ 1700 individus d'ici peu, ceci étant soumis à la décision, bien sûr, du Conseil de sécurité. Maintenant, et cette réduction n'a pas concerné que le Nord Kivu, figurez-vous que l'Ituri a été touché, le Sud Kivu a été touché, le Nord Kivu a été touché. Donc ça, c'est une première précision. Maintenant, concernant les mesures administratives internes prises au niveau de la MONUSCO concernant la cessation du paiement de ce qu'on appelle le hazard pay, ça veut dire la prime du danger, qui était payé aux gens qui étaient déployés à l'est de la République démocratique du Congo de manière très générale. Ces mesures sont administratives, viennent de New York. Ce n'est pas la MONUSCO qui a procédé à la coupure de ces indemnités. C'est New York, sur la base des éléments en leur possession, sur la base des études qui ont été conduites, a décidé de mettre un terme au paiement de ces indemnités-là dans ces zones que vous venez de citer. Mais bien entendu, la situation sécuritaire est toujours menacée par les groupes armés, et c'est ce à quoi nous travaillons. Je sais que Goma, il y a des problèmes au sud Kivu, mais aussi dans toutes les autres villes, et c'est ensemble, avec aussi le concours des journalistes, que nous pouvons arriver à rétablir la paix en République démocratique du Congo. Donc nous revenons ici tout de suite à Kinshasa pour prendre une question. Il n'y a pas de dame. C'est vraiment dommage. Eh bien donc je me contenterai. Oui? Où ça? Je ne vois aucune main. Donc je me contenterai de Isaac à défaut.
C'est Isaac Ngwenza pour le compte Congo Opportunities Media. Nous sommes en 2016, mon colonel, c'est l'année électorale, et nous constatons que la partie est de la RDC est toujours sous le contrôle, mais il y a l'intensification des activités de groupes armés à l'approche des élections. Et maintenant que la MONUSCO et les FRDC viennent de reprendre les opérations conjointes, ma question est de savoir combien de temps pourriez-vous donner aux groupes armés pour les neutraliser une fois pour toutes. Merci.
Oui, merci. D'abord, je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas d'opérations conjointes. Il s'agit d'opérations menées par les FRDC, soutenues par la MONUSCO. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, deuxièmement, si vous me demandez quels sont les délais que nous donnons aux groupes armés pour en finir de manière définitive, d'abord, premièrement, je n'ai pas une boule de cristal pour pouvoir vous dire avec précision, demain ou après-demain, on va le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est un travail, et ça, je vous le dis, compte tenu de mon expérience passée, c'est un travail de longue haleine. Faire la guerre, ce n'est pas aller regarder un match de football, ce n'est pas un jeu. Donc, ce qui compte, ce qui est important, c'est l'engagement de toutes les parties, que ce soit des FRDC et de la MONUSCO, notre détermination à pouvoir aller et mettre un terme aux activités de tous ces groupes armés. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la seule et unique demande et demande pressante des populations civiles. Donc nous avons l'obligation morale de le faire, mais nous avons aussi l'obligation juridique, parce que nous avons un mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité. Nous avons cette obligation de pouvoir réduire ou neutraliser de manière définitive les groupes armés, mais ce n'est pas un travail qui se fait en une semaine ou en un mois. Oui, donc nous prenons une deuxième question. Oui, venant vous dire ça. Je vois que vous êtes bariolé du drapeau congolais. Excellent.
Oui, merci. Patriotisme oblige, oui.
Mais oui.
Monsieur le porte-parole, merci de la parole. D'abord, une remarque. Vous l'avez dit lorsque vous adressiez votre mot à l'occasion de, en présentant le vœu de nouvel an aux journalistes. Vous avez dit que toutes les critiques ou les remarques, vous en tiendrez compte. Curieusement, on constate que jusqu'à présent, le numéro un de la mission onusienne se déplace sans la presse. Ce n'est qu'une remarque. La question, c'est celle-ci. Même si la coopération que vous saluez aujourd'hui, la reprise de la coopération que vous saluez, mais on aimerait mieux savoir en quoi consistait, sinon dans quel cadre s'inscrivait ou s'inscrit l'appui de la MONUSCO au FRDC. Ce n'était pas dans le cadre de la coopération. À vous de nous le dire. Merci.
Oui, merci. D'abord, répondre à la première partie de votre question. Vous avez semblé le dire de manière très négligée au passage, mais je le retiens. Effectivement, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, monsieur Maman Sidikou, depuis sa prise de fonction, bouge beaucoup. Comme vous le savez, chacun a son style. Mais il rencontrera d'ailleurs à cet effet la presse le samedi. Je pense que tout le monde est au courant ici. Pour échanger avec les représentants des médias à travers un petit déjeuner qui sera offert le samedi. Je pense que vous avez déjà tous reçu vos invitations. Maintenant, votre question relative au terme de cette reprise de la coopération, je peux tout simplement vous dire que notre soutien au FRDC s'inscrira d'abord dans le cadre d'un appui logistique, d'un soutien logistique affirmé. Nous mettrons à leur disposition nos moyens. Mais aussi, cette coopération reprendra en termes d'appui au combat. Ça veut dire que tout simplement, du point de vue tactique, nous serons sur le terrain et nous manœuvrerons avec les FRDC ou conjointement de manière coordonnée. Mais aussi, nous apporterons tout notre appui feu, aussi bien par nos hélicoptères d'attaque que par nos pièces d'artillerie, qui appuieront les actions de la MONUSCO et la brigade d'intervention qui sera déployée sur le terrain, appuiera aussi les opérations des FRDC. Mais aussi, nous avons toute une panoplie d'appui, que ce soit appui aux renseignements, ça veut dire acquisition, exploitation des renseignements, mais aussi appui en termes de soutien médical pour les évacuations. En fait, la panoplie est grande, je ne veux pas entrer dans tous les détails de cet accord, mais ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que il faut louer la fraternité d'armes qui existe entre la force de la MONUSCO et les FRDC, parce que vous savez, ça fait très longtemps que ces deux entités opèrent ensemble, sont confrontés aux mêmes défis, en fait, confrontés aux mêmes dangers, ont les mêmes défis, ont des objectifs communs. Je pense que tout à fait normal que la reprise de cette coopération soit boostée par les autorités congolaises et cette acceptation, comme je dis, nous réjouit au plus profond de nous-mêmes parce que ça nous permet, encore une fois, de mettre en synergie tout ce que nous avons pour protéger les populations civiles. Donc nous allons à Goma. Je vous donne une question à Goma très rapidement parce que nous avons à peine 5 minutes.
Merci. Je suis Viviane Zabarinda. Viviane Zabarinda pour les comptes de la RTBF, Radio TVBF francophone, et localement pour les comptes de la Radio Mutali FM. En fait, la question, c'est au volet humanitaire. Madame, vous nous avez présenté, je cherche les plans humanitaires pour cette année 2016. Moi, ce serait seulement une question de précision. Est-ce qu'on peut savoir quel pourcentage de la population congolaise et qui, bien sûr, pourra être concerné par l'assistance humanitaire pour cette année 2016. En termes de pourcentage, s'il vous plaît.
Je vous remercie pour votre question. Le plan qui est lancé cette année concerne 6 millions de personnes, vise à apporter l'assistance à 6 millions de personnes. En termes de pourcentage, ça va devenir plus compliqué parce que, comme vous le savez, les données démographiques se varient et ne sont pas précises. Mais en tout cas, la cible, c'est 6 millions de personnes qui sont principalement localisées dans l'est de la République démocratique du Congo, là où les besoins, notamment en termes d'accès aux services sociaux de base, en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'école, sont les plus pressants.
Oui, merci. Donc, une dernière question ici à Kinshasa pour clore cette conférence de presse. Oui, au fond, donnez-lui le micro.
Paul, c'est Fabrice Mukendi du journal L'Espérance. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé de la suspension de votre coopération avec le FRDC pendant un bout de temps. Et les FRDC se sont assumés. Et maintenant, vous reprenez. Est-ce que ça vaut encore la peine? C'est la première préoccupation. Deuxième
On est à une minute de la fin. Ok, c'est bon?
Oui, deuxième préoccupation. Vous n'avez pas donné des précisions sur la question de Benoît Cambert. Sur qu'est-ce qui a changé dans ces accords? Voilà un peu la petite question. Merci.
J'ai toujours dit ici que d'abord, il faut saluer la bravoure des soldats congolais. Moi, je les ai vus à l'œuvre, je les ai vus sur le terrain se battre jour et nuit contre le M23. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les FRDC n'ont jamais croisé le bras face à la menace que constituent les groupes armés. Au contraire, ils se déploient, ils font tout ce qu'ils peuvent pour non seulement préserver l'intégrité du territoire, mais aussi protéger les populations civiles. Vous avez raison de dire que les FRDC se sont bien comportés. Oui, les FRDC se sont très bien comportés, et je dis, la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, et je vous parle en tant que connaisseur, est vraiment remarquable. Mais vous savez aussi, quand on est deux à faire un travail, je pense que non seulement on peut le faire plus rapidement, mais on peut le faire avec beaucoup plus d'efficacité, parce que les populations qui souffrent ne peuvent pas nous donner des délais. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons tout pour le faire. Je vais être obligé de rendre l'antenne à Radio Okapi. Peut-être que je peux prolonger cette conférence de presse de 5 minutes pour poursuivre ces échanges-là. Donc je reviens... merci à Radio Okapi. Je reviens donc sur votre question pour dire que oui, qu'est-ce qui a changé? Mais beaucoup de choses ont changé, parce que dans la mesure où justement le dynamisme de cette coopération avait fait que nous ne pouvions pas nous entendre sur tout. D'ailleurs, je pense que ceci est spécifique à toute coopération. Si on s'entendait tout le temps sur tout, je ne pense pas que nous nous serons enrichis l'un et l'autre. Évidemment, des choses ont changé, puisque les requêtes posées sur la table par les autorités congolaises ont été prises en compte. Aussi, les contraintes liées à la mission et les contraintes liées à la mise en œuvre de notre mandat aussi ont été mises sur la table et ont été prises en compte par les autorités. C'est ce qui nous a permis de nous retrouver et de signer cet accord-là. Et je le dis encore une fois, posez la question aux populations congolaises de l'Est, elles vous diront que la signature de cet accord est une chose extraordinaire pour eux. La preuve, le gouverneur de la province du Nord Kivu, M. Julien Paluku, s'est bien répandu dans la presse pour dire effectivement tout le bien qu'il pense de la reprise de cette coopération et nous a permis aussi, et il a relayé les voix des populations du Nord Kivu pour saluer aussi la reprise de cette coopération. Donc voilà ce que je peux dire. Je repars à Goma tout de suite pour leur donner une question à Goma. Nous avons 5 minutes supplémentaires. Goma, un peu plus vite.
Merci. Merci beaucoup, c'est Daniel de Bichondelo pour Vision Chaleur Femme Télévision. Ma question s'adresse à Prosper Félix-Sébas. Je voudrais juste savoir, c'est à Beni où il y a souvent un grand problème au niveau de la province du Nord Kivu, même si à Walikan aussi. Il fait un bout de temps que nous ne sommes pas en contact avec les gens de Beni en conférence et de presse. Cela ne serait pas peut-être une façon d'isoler cette zone en difficulté? Merci.
Non, loin de là, je pense que il y a une mauvaise interprétation de votre part, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, nous avons toujours fait aussi la part belle à Beni, parce que si vous observez bien nos cycles de conférences, Bukavu n'a jamais eu une vite ici. Avec Kinshasa et bien d'autres provinces, Lubumbashi et toutes les autres. Donc je pense que nous faire un faux procès. Nous n'avons nullement l'intention d'isoler Beni, nous l'avons pas isolé. Tous les jours, la communication entre Kinshasa et Beni se fait, entre Goma et Beni se fait, parce que vous savez que nous avons déployé à peu près les 2/3 de la brigade d'intervention là-bas. Vous savez aussi que l'état-major de la brigade d'intervention est à Beni. Vous savez aussi que le commandant de la force qui était là, Carlos Alberto dos Santos Cruz, autant que le général Bayo, est pratiquement tous les jours à Beni. Tous les jours. Donc c'est pour vous dire ou traduire l'intérêt que la mission accorde à Beni, parce que comme je l'ai dit, Beni est assez spécial compte tenu de ce que nous observons là-bas. D'abord, le mode opératoire du groupe rebelle ADF qui est là-bas, la cruauté avec laquelle les massacres sont perpétrés et parfois sans motivation réelle. Et donc c'est pour cela que toute notre attention est focalisée à Beni. Mais nous n'oublions pas non plus le Lubero, le territoire de Lubero où ça ne va pas, le territoire de Walikale et de Masisi où ça ne va pas. Vous savez, la République démocratique du Congo est grande et c'est pour cela que la reprise de cette coopération nous permettra de mettre en synergie nos efforts et d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Oui, donc nous revenons à Kinshasa. Une dernière question à Kinshasa. Oui, donnez-lui le micro là-bas, au fond. Oui, relayez le micro s'il vous plaît, le temps court. Voilà.
Merci pour la parole.
On ne peut pas avoir deux micros et deux intervenants en même temps. Donc, Symphorien, allez-y.
Merci pour la parole, Symphorien Katumba, l'explorateur.
Ça, c'est un coup de main, c'est un coup de main, ça.
Le processus de démocratisation en RDC par le biais du dialogue inclusif, selon la Cour 4 d'Addis Abeba, n'est pas respecté selon le président Étienne Tshisekedi de l'UDPS. Il demande que la communauté internationale désigne un médiateur international. La MONUSCO fait quel type de lecture à propos de ces propos? Je vous remercie.
Pardon, que la MONUSCO?
La MONUSCO fait quel type de lecture concernant ce propos? Je vous remercie.
Je pense que je ne commenterai pas les propos de M. Tshisekedi. Vous savez, nous sommes en démocratie et chacun a la liberté d'exprimer clairement ses pensées, ses idées, mais aussi mettre sur la table ses propositions. Ce que je peux vous dire de manière très globale, c'est que nous avons toujours aussi répété à suffisance que ce dialogue ne se faisait pas entre la MONUSCO et le peuple congolais, mais bien sûr c'est un dialogue intercongolais et que nous étions disposés à offrir nos bons offices, c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Et ce qui concerne justement le déroulement du processus électoral, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons réaffirmé notre assistance logistique à la révision du fichier électoral si toutefois la requête nous était soumise. Et je pense bien que dans ce cadre-là, une correspondance a déjà été envoyée aussi à New York après la correspondance de la CENI à la Monusco pour que ce soutien soit accordé à la CENI. Nous avons aussi mis en place un mécanisme de rencontre périodique entre la Monusco et la CENI pour faire le suivi du processus électoral, mais aussi nous avons décidé de participer ou de contribuer au renforcement des capacités de la CENI. Donc je pense tout simplement que le SRJ, M. Sidikou, est dans son rôle, il facilite l'interaction entre les différents acteurs politiques pour que nous puissions nous acheminer vers des élections transparente, crédible et apaisée. Donc voilà, en d'autres termes, c'est sur cette note-là que je mets un terme à cette conférence de presse. Merci d'avoir été nombreux parmi nous. À mercredi prochain.